Il y a trois dimensions que l'on peut dégager de cette visite. La première est une dimension effectivement diplomatique, hein, puisque les deux pays avaient rompu leurs relations il y a un peu plus d'un an suite aux attentats du 19 août 2009, hein, qui avaient vu plusieurs centaines de morts à Bagdad et qui avaient été attribués par le gouvernement d'Al-Maliki au régime syrien, qui aurait prêté refuge aux terroristes et notamment à certains éléments liés à la mouvance d'Al-Qaïda qui avait revendiqué l'attentat. Sachant qu'il y avait également un point de litige concernant la présence d'anciens bassistes à Damas et que certains doutes s'étaient portés sur l'implication d'anciens éléments du régime de Saddam dans cet attentat. La Syrie s'était défendue de toute implication et effectivement, je pense qu'à l'époque, les déclarations du Premier ministre étaient un peu extrapolées dans la mesure où Al-Qaïda en Irak, qui avait revendiqué l'attentat, est aujourd'hui une organisation majoritairement irakienne. Donc le premier volet est un volet effectivement diplomatico-sécuritaire. Le deuxième volet est un volet diplomatique puisque cette visite fait suite à plusieurs discussions engagées par Bachar al-Assad avec les différents acteurs politiques du pays après plus de 7 mois d'impasse et des incapacités à former un nouveau gouvernement. Donc il y a quelques jours, Al-Hakim Layatollah, qui est le dirigeant du Conseil suprême islamique irakien, s'est entretenu avec al-Assad. Donc différents acteurs chiites au Conseil suprême islamique irakien, mais également il y avait une visite en été de Moqtada al-Sadr, qui est un autre acteur chiite des plus influents. Donc il y a effectivement ce rôle aujourd'hui que joue la Syrie finalement avec des pressions iraniennes derrière de constituer une famille chiite forte qui puisse effectivement prendre le pouvoir. En face, il y a Alaoui qui était donc le candidat victorieux des élections du 7 mars qui lui s'est adressé à Al-Assad pour lui demander justement que les interférences iraniennes en Irak cessent et que les acteurs irakiens puissent poursuivre leur tractation en interne et sans ingérence iranienne. Donc il y a un jeu, je dirais, politique irakien très complexe, dans une configuration régionale très complexe, mais il est certain que ces visites successives, en tout cas, démontrent que la Syrie a un vrai pouvoir d'influence et une vraie marge de manœuvre aujourd'hui au plan politique. Et la troisième dimension, eh bien, c'est la dimension économique, puisqu'Al-Maliki a donc dit qu'il rendait visite à son homologue syrien pour discuter également donc des dossiers économiques à l'heure où des projets d'oléoduc sont en cours pour relier l'Irak à des terminaux pétroliers en Méditerranée et donc notamment en Syrie, dans des villes comme Latakia. Donc il y a effectivement tout cet aspect aussi reconstruction économique et ouverture de l'Irak vers la Méditerranée notamment.
Y avait-il également pour l'Irak des motivations stratégiques et politiques? On sait que Nouri al-Maliki cherche des soutiens dans la région et qu'il multiplie les tractations pour former un nouveau gouvernement après plusieurs mois d'impasse politique.
La Syrie est un acteur régional en tout cas incontournable, avec encore une fois étroitement lié à l'Iran. Donc je pense que finalement ces visites sont aussi une façon de s'adresser aux grands voisins iraniens par voie intermédiaire. Sachant que la Syrie est tout de même le plus proche voisin ou l'un des voisins les plus stratégiques de l'Irak et qu'il est tout dans l'intérêt en tout cas de tous les acteurs d'entretenir de bonnes relations. Donc ça c'est la première chose, mais effectivement ensuite derrière il y a l'Iran et le fait que la Syrie joue un peu, on peut voir ici un peu le rôle finalement d'un intermédiaire. Maintenant de là à dire que ces visites vont se traduire sur le terrain par des avancées politiques conséquentes, encore une fois, il est quand même important de rappeler que la violence en Irak, que les dynamiques politiques en Irak restent avant tout proprement irakiennes et ne sont pas dictées par un jeu régional comme on peut souvent le dire. Hein. Les logiques restent avant tout irakiennes. Mais effectivement, les différents acteurs politiques irakiens aujourd'hui ont besoin de soutien dans la région et après la Syrie, Maliki envisage d'ailleurs de poursuivre ses visites dans des pays comme la Jordanie, donc dans l'ensemble de la région, donc encore une fois, pour trouver des soutiens. Mais est-ce que cela va se traduire par la formation d'un gouvernement prochain? Ceci est moins sûr.
Et pourquoi avoir attendu plus d'un an pour rétablir des relations diplomatiques complètes?
La configuration a quand même énormément changé. C'est-à-dire qu'encore une fois, en 2009, quand Al-Maliki a décidé de rompre ses relations, il était dans une situation encore de force. Aujourd'hui, Al-Maliki est un candidat effectivement qui vient de se rallier à la mouvance sadriste, mais qui manque encore de quelques voix pour former une majorité. Donc il est dans une position de faiblesse qui l'oblige en tout cas à effectivement tout faire pour avoir de bonnes relations avec son voisin syrien, ce qui est le cas des autres acteurs politiques également. Donc, dans l'immédiat, en attendant en tout cas la formation du futur gouvernement, je pense qu'effectivement, les acteurs irakiens ont bien pris conscience de la nécessité de composer avec ce voisin syrien.
Et de son côté, la Syrie, qu'a-t-elle à y gagner ?
Il y a plusieurs choses. Sur le plan économique, l'Irak est appelé à devenir un des premiers marchés du Moyen-Orient. La Syrie a évidemment les yeux tournés vers les richesses pétrolières irakiennes. Donc effectivement, d'un point de vue commercial, en termes d'investissement et de débouchés pour la Syrie, d'un point de vue géopolitique, l'Irak est une carte maîtresse. D'un point de vue politique, eh bien, encore une fois, l'influence que peut exercer la Syrie sur les affaires politiques irakiennes la place au niveau régional comme un acteur incontournable. Donc c'est dans l'intérêt du jeu régional de Damas. Et d'un point de vue enfin sécuritaire, la coopération qui est celle donc de l'Irak et du régime de Damas en termes de sécurité, notamment de lutte contre le terrorisme, est aussi un point fondamental dans la mesure où depuis 2003, le régime syrien, finalement, de manière un peu paradoxale, a favorisé ou du moins fermé les yeux sur un certain nombre de transferts de combattants, de réseaux qui se sont constitués sur son territoire en direction du djihad irakien. Et au même moment, tout en étant très conscient que cette tolérance pouvait à terme se retourner contre lui, dans la mesure où le phénomène islamiste sunnite, je dirais, ou les sympathies islamistes syriennes envers l'Irak sont bien réelles, et que cela pourrait représenter également une menace interne au régime. Donc sur un plan sécuritaire, il est dans l'intérêt, en tout cas pour la Syrie, que l'Irak se stabilise.